kids. Je vais aller maintenant que nous avons beaucoup échangé et creusé les choses, et je pense que c'était nécessaire et que c'est vraiment une bonne chose de voir que le texte produit un impact, produit une réflexion, parce que c'est un texte qui n'est pas ardu, qui n'est pas difficile en soi, mais évidemment c'est un texte qui ne nous laisse pas indemnes, évidemment, qui nous provoque et qui nous touche de l'intérieur, c'est certain. C'est ça, les mystiques, ça ne nous laisse pas indemnes. C'est évident. Alors, je vous ai mis les deux points que nous allons travailler, enfin, deux grands textes. Je vais m'en tenir à cela. Commentant la parole de notre Père, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Chapitre 30 à 32. Un premier point qui nous est donné dans le chapitre 31, je vous ai mis des mots, l'intériorité, le don du royaume, dans la quiétude et l'enfant spirituel. Vous allez voir pourquoi j'ai mis ça, c'est tout à fait significatif. Il y a chez Thérèse une comparaison assez amusante d'un nourrisson. La contemplation, c'est un nourrisson qui tète le sein de sa mère. C'est une comparaison, je vous dis, l'âme est comme un enfant, c'est 31.9. C'est une comparaison qui a fait problème pour les censeurs. Sainte Thérèse en a été embarrassée, on va y revenir. Alors, Sainte Thérèse nous dit, vous avez dit au chapitre 29, paragraphe 8, « Considérez comme bien employé le temps que vous passez à vous recueillir. C'est une bonne base si le Seigneur veut vous élever à de grandes choses, qu'il vous y voit disposé en vous voyant près de lui. » C'est ça le recueillement. Vous êtes disposé, vous êtes près du Seigneur. Et donc, ce recueillement, cet effort, nous attire, mérite notre entrée dans la contemplation. C'est ce que Sainte Thérèse appelle l'oraison de quiétude, c'est l'entrée dans la contemplation. Un premier pas véritable dans le monde surnaturel. C'est le Seigneur lui-même qui donne un signe, un avant-goût du royaume à venir. Que ton règne vienne. C'est évidemment une demande fortement eschatologique. Alors, Sainte Thérèse, comme à son habitude, donc elle part de la demande du Notre Père, mais aussi elle va commenter d'autres passages de l'Évangile. Ça ne la gêne pas du tout, n'attendez pas une grande rigueur. Alors, elle va embrayer avec la paix chantée par le vieillard Siméon lorsqu'il tient dans ses bras l'enfant Dieu. Et ce sera une illustration, une figure de ce qu'elle appelle la quiétude. Quiétude en français, ça veut dire paix. Ça vient du latin. Je crois que c'est... Quiescor, c'est un verbe déponent en latin, se tenir tranquille, se tenir au repos. D'accord ? Donc, comme on dit, on disait requiescat in pace, qu'il repose en paix. D'accord ? Requiem, messe de requiem, pour le repos de. D'accord ? Donc, c'est le repos, la tranquillité, tout simplement. Donc, quiétude, c'est cela. Le repos contemplatif. Alors, je vous ai dit que c'était un mot qui sentait le brûler, c'est clair, puisque, vous vous rappelez, nous avions les recueillis les abandonner, les chados, hein, et puis les illuminer. Alors si en plus on amène les quietos, alors ça fait beaucoup, parce que plus tard ça donnera le quiétisme en France, hein, au XVIIe siècle. Alors vous voyez, alors on est devant un terme assez délicat, hein, pour tout dire, et ça ne va pas trop plaire aux censeurs, cette horizon de quiétude, pour bien dire, dans plusieurs sens. Nous avons donc ce texte, paragraphe 2 et 3. Serait-il possible d'avoir un lecteur? L'âme, c'est l'âme qui se met en paix. Ça commence comme ça, paragraphe 2. Il y a quelques points de suspension. L'âme entre dans la paix. Ou pour mieux dire, c'est le Seigneur qui l'habite. Vous auriez ça? Le premier qui l'a le lit. Chapitre 31. Paragraphe 2, 3. C'est les références que je vous ai données dans le tableau, d'accord? Paragraphe 2, 3. Vous voyez, l'âme entre dans la paix, ou pour mieux dire, c'est le Seigneur qui l'établit. Vous avez ça?
Oui.
Alors, on y va? Vas-y, bon, merci.
Ici, en effet, l'âme se plonge dans la paix, ou pour mieux dire, le Seigneur l'y plonge par sa présence, ainsi qu'il en usa envers le juste Siméon. Alors, toutes les puissances s'apaisent.
Alors, les puissances, faut que vous sachiez, c'est le vocabulaire de la théologie, enfin même philosophie, hein, scolastique, la puissance, les facultés de l'âme.
Et l'âme comprend par un mode de compréhension très différent de celui qui nous vient par le moyen des sens extérieurs.
Là, c'est aussi toute cette philosophie de la connaissance, hein, tout ce qui vient dans notre intelligence passe par les sens, rien de ce qui est dans l'intelligence vient autrement que par les sens. Vous vous rappelez, c'est l'école, hein, c'est la scolastique, d'accord, c'est la philosophie réaliste, donc elle fonctionne là-dedans, c'est sûr.
Elle comprend qu'elle est tout près de son Dieu et que pour un peu, elle en viendrait à être, par l'union, une même chose avec lui.
Elle est tout près, junto cabe su Dios. Elle est unie près d'eux, hein, c'est très fort en espagnol, junto cabe su Dios. Bon. Et il s'en faudrait d'un tout petit peu pour qu'elle ne fasse qu'un avec lui, dans l'union. Donc, quiétude, puis union. Hein, c'est deux étapes. Ça veut dire que c'est un dynamisme. Hein, bon.
Ce n'est pas que le voie des yeux du corps, ni de ceux de l'âme.
Voilà un point important. La contemplation, ce n'est pas de voir. Dans le recueillement, on regarde. Mais on regarde sans voir. Ah ah. Eh oui, c'est ça, c'est pour les jeunes. Eh oui, c'est bien le paradoxe. On regarde, mais on ne voit pas. Ici-bas, on ne voit pas. Hein. On se représente, le Seigneur est présent, mais on ne voit pas. C'est toujours dans la nuit de la foi, hein. Ça, il n'y a pas rien à faire. Hein. Oui, bon, ce n'est pas avec les yeux du corps, ni de l'âme. Il n'y a pas de vision.
Le juste Siméon, lui aussi, ne voyait au dehors que l'auguste petit pauvre, et au l'ange qui l'enveloppait, au petit nombre de ceux qui lui faisaient cortège, il aurait eu sujet de le prendre pour le fils de pauvres gens, plutôt que pour le fils du Père Céleste. Mais l'enfant lui-même lui fit connaître qui il était. Ici, c'est de la même manière que l'âme comprend, avec moins de clarté toutefois, parce qu'elle ne comprend pas encore comment elle comprend. Seulement, elle se rend compte qu'elle se trouve dans le royaume, ou du moins près du roi qui doit le lui donner, et elle est saisie d'un si grand respect qu'elle n'ose lui faire aucune demande.
Bien, intéressant, hein, ça. Vous voyez, encore cette notation de respect, de révérence, acatamiento, hein, c'est fort en espagnol, qu'elle n'ose demander. Donc c'est un silence, elle insiste beaucoup là-dessus. Vous voyez que là, c'est tout à fait la vertu de religion, le respect révérentiel. Elle est tout près du roi, proximité, présence, mais il n'y a pas de lumière. Et il y a encore moins de lumière que ce qui a été révélé au juste Siméon. Il y a la paix qui est commune. Vous voyez, c'est cet effet de paix qu'elle souligne en commun. Le Seigneur s'est donné, s'est révélé au juste Siméon, De fait, hein, l'Évangile nous dit que c'est l'Esprit Saint qui le, qui l'a inspiré, qui l'a poussé. C'est pas mal cette, ce rapprochement, je trouve, avec l'Évangile de Luc, hein, au chapitre 2. Le juste Siméon qui reconnaît l'enfant Dieu. Ou plutôt, l'enfant se donne à reconnaître. Donc il y a quelque chose de cela dans l'oraison de quiétude. On n'en sait pas beaucoup plus. Elle essaie de décrire. Hein. Sainte Thérèse est une descriptive. Ne lui demandez pas un raisonnement. Mais enfin, c'est une proximité. C'est l'expérience d'une présence. D'une présence apaisante, comblante, c'est certain. Due à la présence agissante du Seigneur. C'est au point qu'elle dira un tout petit peu après que ça rejaillit même jusque dans la sensibilité. Hein, c'est au niveau de l'esprit, bien sûr, hein, qui s'est recueilli, mais il y a une diffusion, si vous voulez, jusque dans la sensibilité. Mais ça part à partir de l'intériorité spirituelle. Vous discernez par là, vous voyez par là que cette voie de l'intériorité, les choses... Ensuite, on leur source au dedans. Ce qui se vit essentiellement vient du dedans, et après ça part. Ça rayonne à partir de l'intérieur. Bon. C'est un peu un autre fonctionnement psychologique aussi. Voilà un chapitre dans Je veux voir Dieu où il est question du retournement psychologique. Voilà. Notre psychologie, elle fonctionne, tout vient de l'extérieur et on emmagasine et on traduit. Et on travaille là-dessus à l'intérieur, par l'intelligence, hein, pour l'âme à l'intérieur. Eh bien, les mystiques montrent que dans la contemplation, les choses viennent de l'intérieur et ont un rejaillissement sur ce qui nous est plus externe, plus extérieur, plus sensible, et qui nous met en relation avec le monde, la création. Et ça. Donc il y a un autre mouvement, il y a une source, c'est ça l'intériorité. Vous percevez cela ? Bien. Alors, évidemment, la tentation, et Sainte Thérèse le relève, là, c'est assez... elle est fine comme une mouche. Hein. Donc, c'est paragraphe 6, ou la page 740-741. Évidemment, la tentation, le désir, parce que c'est quand même plutôt agréable, hein, et comme tous les plaisirs... C'est une chose qu'il faudra que j'étudie un petit peu plus parce que c'est très net chez Saint Jean de la Croix. Les joies, plaisir, ça a un grand lien avec la mémoire. Et oui. Je ne sais pas comment ça se produit. Il doit y avoir une réaction chimique, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas très compétent. Mais ce qui est, bon, au niveau du plaisir, en tout cas, ça laisse une trace dans la mémoire. Les joies laissent une trace dans la mémoire aussi. Donc, c'est très en lien avec la mémoire. Et donc la mémoire fait que, eh bien, ça s'emmagasine, on a des archives, et que donc une sensation éprouvée, un plaisir éprouvé, une joie éprouvée, il est tout à fait naturel de vouloir le ou la rééprouver. Rééprouver, pas rééprouver, hein, mais rééprouver, ressentir, vous voyez. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, hein, du lien de la mémoire, du plaisir et de la joie. Et donc là, ben, c'est une oraison qui est quand même certainement agréable, hein, c'est une quiétude qui n'est pas désagréable. Alors, elle dit, ben, l'âme, elle voudrait bien la retrouver et se la procurer. C'est un peu naturel. Alors, elle dit, c'est complètement idiot et complètement chimérique, complètement inutile. Alors, elle dit ça, c'est que dans la seconde rédaction, ce serait une sottise. Nous ne pouvons pas faire se lever le jour, ni empêcher la nuit de tomber. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec l'hiver qui arrive ? Rien du tout. Il fera nuit à 5 heures du soir, et ça ne se lèvera qu'à 8 heures du matin. Vous n'y pourrez rien. Même s'il y a des changements d'heure, le 31 octobre. Hein ? Cela non plus n'est pas notre œuvre, c'est une chose surnaturelle, vous voyez, c'est très insistant, sobrenatural. Hein? C'est une chose que nous ne pouvons absolument pas acquérir. Muy sin poderla nosotros adquirir. Ça ne peut pas être acquis. Donc il n'y a pas de contemplation acquise. C'est une pure contradiction quand on voit ça dans les manuels de spiritualité, la contemplation acquise. Ça n'a aucun sens. C'est complètement contradictoire. En tout cas, pour Saint Jean de la Croix, il s'intéresse. Ça va ? Bon. Elle dit, le meilleur moyen de la prolonger est de reconnaître vraiment que nous ne pouvons rien y retrancher ni ajouter. Et la recevoir, la contemplation, dira Saint Jean de la Croix dans la vie flamme, consiste à recevoir. Et la recevoir en nous sachant très indignes de la mériter. Dans l'action de grâce, et cela sans beaucoup de paroles, mais en levant les yeux avec le public. Là, elle s'est plantée dans l'évangile de Luc, hein, Luc 18, je ne trouve pas. Hein. Le publicain, il baisse les yeux. Alors elle n'est pas allée voir parce qu'elle n'a pas accès au texte. Donc, il lève les yeux, non, il baisse les yeux. Elle s'est trompée, hein. Elle prend un peu de liberté avec le texte. Hein. Il n'osait pas lever les yeux au ciel, il se frappait la poitrine, d'accord ? Bon. Ce qui nous intéresse ici, et ce qui l'intéresse en fait de fond, c'est l'humilité du publicain dans sa prière au temple. Et vous voyez que donc il y a l'aspect révérence, soumission, adoration, respect. Il y a l'aspect humilité, c'est immérité. Et il faut vraiment comprendre qu'on n'y peut rien, on ne peut pas ajouter ni retrancher. On la reçoit en se sachant indigne. Et il y a l'action de grâce. L'aspect louange, action de grâce. Sans beaucoup de paroles. Hein, vous voyez, il y a vraiment dans cette contemplation, Dieu met l'âme au silence. Il n'y a rien à faire. Elle y insiste. Et nous sommes impuissance et néant en regard de tout ce qui est proprement de l'ordre surnaturel. Il s'agit de le reconnaître en toute clarté. Entender claro. Il faut le reconnaître en toute clarté. C'est fort, hein, ce sens du surnaturel qu'elle a. Hein. Ouais. Et alors, après, nous avons cette comparaison gracieuse qui permet à la sainte de caractériser cette quiétude contemplative. Dans la première rédaction, donc dans celles et ceux qui ont le livre jaune en français, et je me suis laissé dire que, Alexa, vous aviez le chemin de l'Escorial, c'est ça ? Mm-hmm. Hein, c'est ça que vous avez dans votre édition allemande ?
Oui.
Mais non, c'est le texte séparé. Le chemin de l'Escorial que vous avez, il est tout seul. C'est un livre qui n'est que le chemin de la perfection.
Oui.
Votre livre,
oui.
C'est le chemin de la perfection, Escorial, un livre seul. Dans les œuvres complètes en allemand,
je sais pas.
Vous n'êtes pas allé voir, c'est sans doute celui de Valladolid, non, l'habituel. Oui, certainement, s'ils ont fait une édition spéciale, c'est comme en France. Quoi. Voilà, très bien. Alors, dans d'autres langues, je crois que, je ne sais pas si ça existe en anglais, je n'ai pas l'impression que ça existe, le manuscrit d'Escorial, hein, je ne crois pas. Hein. La traduction du premier autoparent. En espagnol, évidemment, puisqu'il y a l'original. C'est clair. Hein? Voilà, en portugais, je n'ai pas l'impression. Hein? Je ne sais pas plus. Je ne crois pas. Je crois que c'est celui de Valladolid. Non, tu arrives à suivre. Tu ne suis pas un pas. Oui, je ne pense pas qu'on ait fait l'Escorial. Alors, dans le chemin de perfection de l'Escorial, ça va ? Ce texte que nous allons lire se trouvait à l'origine dans un appendice à la fin du texte, à la fin du livre. Comment ? Dans l'Escorial, il se trouvait à la fin. Alors, s'il se trouvait à la fin, c'est que c'était en dehors des chapitres. Alors là, maintenant, on est dans le chapitre 31 et c'est le paragraphe 9. Parce que, je vous explique, je suis en train de vous expliquer que ce texte, ensuite, non, qu'est-ce que je raconte ? La fois, je me trompe. Oui, c'est bien ça. Ce texte, Teresa Serra, c'est un appendice dans le chapitre 31 de la seconde rédaction. Voilà, c'est ça. Il était à la fin du livre Le chemin de perfection de l'Escorial. Elle avait mis ça en fin, en finale. Voilà. Bon. Alors après, elle l'a mis au chapitre 31 du chemin de perfection de Valladolid, dans la seconde rédaction. Elle l'a mis parce qu'elle trouvait que ça illustrait bien son propos. C'était, on ne peut mieux dire, c'était génial. Elle était très contente d'elle. Mais le texte, on a envisagé de le publier, et que c'est elle qui l'a envisagé même, vous rappelez cette édition à Évora, au Portugal, par son ami l'évêque d'Évora, l'archevêque d'Évora, donc Antonio de Bragança. Quand ils ont envisagé de publier ce chemin de la perfection, donc à Évora, en le préparant avec la sainte, et que c'est sorti en 1583, alors on a supprimé intégralement cette comparaison qui faisait en fait un chapitre dans l'Escorial. Pourquoi ? Alors c'est une étude du Père Thomas Alvarez là-dessus. Donc ce texte commence par « L'âme est comme un enfant ». Et donc pourquoi ? Eh bien, vous allez voir, probablement pour ne pas susciter, prêter le flanc à une accusation de quiétisme ou d'illuminisme. La sainte, ceux qui l'ont aidé à publier, ont jugé que c'était peut-être un petit peu risqué. Et pourtant, je trouve que c'est un texte génial qui nous montre que Thérèse d'Avila, déjà, elle pensait à l'enfance spirituelle. Eh oui. Alors, je suppose que vous l'avez dans vos éditions, parce qu'il est même dans le seuil, cette édition périmée, page 742. Nous sommes au chapitre 31, le paragraphe 9. Notez bien cette comparaison, elle me semble très juste. Elle est contente d'elle-même. Parce qu'elle dit en plus, et c'est ça aussi qui causait un peu de gêne, le Seigneur me l'a inspiré dans la prière. Alors si en plus elle fait un peu illuminée, donc ils se sont dit, ça, on court tous les risques que le livre ne passe pas la censure. Vous comprenez ça ? Voilà. Notez bien cette comparaison, elle me semble très juste. Yvon, tu veux continuer ? Paragraphe 9.
L'âme ressemble alors à un petit enfant à la mamelle, attaché au sein de sa mère, qui dans sa tendresse lui fait couler le lait dans la bouche sans qu'il ait à remuer les lèvres. De même ici, la volonté est à son amour, sans effort de l'entendement. Le Seigneur veut que sans travail de l'esprit, elle comprenne qu'elle est avec lui. Il veut qu'elle se contente d'avaler le lait qu'il lui verse dans la bouche et d'en savourer la douceur. Ainsi qu'elle reconnaisse que c'est de lui qu'elle reçoit cette faveur, qu'elle soit heureuse d'en jouir, mais qu'elle ne cherche pas à savoir comment elle en jouit, ni même à connaître ce dont elle jouit. Qu'elle perde tout souci de ce qui la concerne. Celui qui se tient auprès d'elle ne manquera pas de veiller à ses besoins. Mais si elle veut lutter avec l'entendement, si elle cherche à l'attirer à elle pour lui faire part de sa jouissance, elle n'y arrivera point. Forcément, elle laissera couler le lait de sa bouche et perdra ainsi cet aliment divin.
Bien. Donc, un enfant qui tète sans têter. D'accord ? Qui est au sein de sa mère, qui reçoit le lait, en fait, sans qu'il tète, quoi. Le lait coule. Sa mère le gâte. Il n'y avait pas ça dans la traduction, là, elle a sauté à pieds joints là-dessus. Pour regalarle, sa mère le gâte. Bien. Donc, ça souligne, une fois de plus, qu'il s'agit d'un don divin, sur lequel on n'a pas de prise, qui est reçu, qui coule de la source qu'est Dieu. Dieu qui nous aime comme une mère, qui chérit comme une mère chérit son enfant, qui le tient sur son sein. Hein. Tout ça, c'est le prophète Isaïe derrière, hein, c'est clair. Oui, c'est Isaïe derrière tout ça, hein, c'est clair. Bien sûr, mais elle ne met pas des citations, hein, elle ne fait pas un devoir de théologie. Hein. D'accord, il n'y a pas de notes en bas de page, ça c'est clair. Bon. Autre aspect aussi, elle invite à ne pas analyser et s'analyser. Parce que les gens seraient tentés de dire, bon, ben, voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà, bon. Hein. Et elle montre aussi qu'il s'agit d'une joie de la volonté, d'une emprise de Dieu sur la volonté, et que c'est sur une faculté, hein, c'est une touche de Dieu, une emprise de Dieu sur une faculté, et il ne faut pas chercher à ce que toutes nos facultés soient sous cette emprise de Dieu. Donc il ne faut pas analyser d'une part, c'est perdre son temps. Il faut s'abandonner à cette joie, il faut perdre le souci de soi, dit-elle, donc pas d'analyse, pas de retour sur soi. Bon, c'est un peu mystérieux ça, hein. On jouit sans jouir, sans savoir ce que c'est, enfin bref, hein. C'est quand même assez mystérieux ce truc, hein. Enfin bon, hein. Faites grâce. Hein. Bon. Et puis, l'autre aspect, c'est que eh bien, Dieu peut nous toucher de l'intérieur, toucher l'une de nos facultés, parce qu'il est le Seigneur, hein. Seul Dieu peut nous toucher ainsi sans nous violenter, sans nous faire violence. Et ouais, il n'y a que Dieu qui peut le faire, ça. Quand c'est une créature humaine, c'est autre chose, hein. C'est souvent la violence, hein. Seul Dieu peut nous toucher de l'intérieur sans nous violenter. Et d'autre part... eh bien, il peut nous toucher partiellement. Voilà. Ça peut être un effet partiel. Et Sainte Thérèse, à la fois tempérament riche, une volonté très puissante, très forte, une affectivité très riche et débordante, elle est touchée par ce côté qui est son point fort, si vous voulez. Saint Jean de la Croix sera davantage touché sur le côté de l'intelligence, de l'entendement, et ébloui par la lumière de Dieu. C'est ça qui parlera d'obscurité, de ténèbres, de raison de ténèbres. Un tempérament fort sur le plan de l'intelligence aussi. Voilà. Donc l'important, c'est cette sorte de remise de soi à Dieu, d'abandon. Mais alors attention, vous voyez que c'est très risqué, hein, tout ça, parce qu'il y avait les abandonnés. Les recueillir, les abandonner, les illuminer. Donc voilà... elle ne dit pas qu'elle s'abandonne, mais elle dit qu'elle se néglige, qu'elle n'ait pas de souci d'elle-même. Hein. Celui qui est à côté d'elle, auprès d'elle, aura soin d'elle et de ce qui lui convient. Car si elle se met à combattre avec l'entendement pour l'amener, hein, elle ne pourra pas tout faire. Elle laissera tomber le lait et elle perdra cet aliment, ce soutien divin. Voilà. Il faut se laisser conduire. Il faut accueillir. C'est la réceptivité qu'elle souligne. Forcément, vous voyez qu'on est, on marche un peu sur des œufs, comme on dit en français, hein, dans ce domaine. C'est extrêmement délicat. Vous voyez ce que c'est que des œufs? On marche dessus parce que c'est très difficile de ne pas casser les œufs quand on marche dessus, c'est sûr. Donc vous voyez, étant donné le contexte spirituel, dogmatique, inquisitorial, c'est une expérience, hein, qui pouvait susciter des polémiques, donc ils ont jugé plus prudent de la supprimer. Et c'est ça dommage, parce qu'en fait, ben, elle nous montre que la contemplation, au fond, l'entrée dans la contemplation, ça a à voir avec une enfance spirituelle, quoi. C'est ça qu'elle signifie par là. Et donc je trouve ça très intéressant. Voilà.
Est-ce que ce n'est pas encore l'union de volonté?
Alors, nous y arrivons. Merci de me précéder en Galilée. Bien. Alors, avançons. Aujourd'hui, vous avez des choses à dire, c'est bien. Je me faisais un peu de soucis, donc je suis content. Alors, on ne va pas tout faire ce qu'on avait à faire, mais ce n'est pas grave, parce que demain, on a du temps. Alors, nous abordons un autre point que je vous ai mis dans le tableau. C'est un autre texte, c'est le chapitre 32. Qu'est-ce que c'est que la contemplation proprement dite, l'union contemplative avec Dieu? Ça, je préfère le mot union contemplative. Qu'est-ce que c'est que ce qu'elle appelle l'union? Vous voyez donc une sorte de gradation des étapes. Je préfère parler plutôt d'un dynamisme. Parce que quand on parle d'étapes, on a l'impression que quand on est passé à un, on coche la case, on va à l'autre, et que ça marche, et que c'est une courbe ascendante. S'intéresse dit bien, hein, dans le livre de sa vie, que l'âme ne grandit pas, ne croit pas à la manière d'un corps. Et donc, il y a des hauts et des bas. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a coché là, qu'on a franchi ça, qu'après, c'est... Vous voyez ça? Donc, je préfère parler d'un dynamisme de la prière, de l'oraison. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça qui va éclairer la réalité de l'union contemplative avec Dieu pour Thérèse. Elle s'applique à elle-même les paroles de la prière du Seigneur. Sur la terre, c'est quoi? C'est pas la terre en général, comme ça, la planète Terre. Hein, elle n'est pas écologiste avant l'heure. Non. C'est la terre de sa vie à elle, de son histoire, de son cœur. Qu'en elle se fasse la volonté de Dieu sur cette terre de sa vie, pourtant misérable et stérile, dit-elle. 32.2, page 747. Ah oui, d'habitude je vous écris ça.
Merci, je commence à tomber dans la quiétude, moi aussi. 32.2, page 742.
Et elle dit, quelle détermination il faut pour remettre sa volonté propre, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, en moi, dans ma volonté. Et donc, ça suppose qu'on donne sa volonté au Seigneur. Qu'on la remette. Remettre sa volonté propre. En vérité, sans légèreté, sans superficialité, pas seulement dans un acte d'un grand élan, le jour de sa profession... très émouvant, c'est très bien, mais sans réserve, sans retour, dans la durée. Alors elle dit que là, c'est le cœur de ce qu'elle a à nous dire. Tout ce que je vous ai conseillé dans ce livre n'a que ce but, de nous amener à nous donner entièrement au Créateur, à mettre notre volonté dans la sienne et à nous détacher des créatures. 32.9. Page 750-751. D'accord. Alors, comme je vous l'ai dit, si on se donne, je vous l'ai dit hier dans l'homélie, si on se donne, on y gagne. Si on donne tout, on gagne tout. C'est toujours la logique thérésienne. Vous devez avoir compris la grande importance de ce don. Notre bon maître sait bien quel gain nous obtiendrons à rendre ce service à son Père éternel, le don de notre volonté, car par là, nous nous disposons promptement à parvenir au terme de notre voyage et à boire l'eau vive de la source dont nous parlions. Allez, toujours à ça. Car si nous ne donnons pas complètement notre volonté au Seigneur pour qu'il agisse en nous conformément à la sienne, jamais il ne nous permettra d'y boire. C'est cela la contemplation parfaite dont vous m'avez demandé de vous parler. 32.9. D'accord? Bon. Et 32.11. Le texte que j'ai mis hier dans l'homélie pour vous réveiller un peu. Ô mes sœurs, quelle force renferme ce don? S'il est fait avec la détermination requise, il ne peut manquer d'attirer le Tout-Puissant à ne faire qu'un avec notre bassesse, à nous transformer en lui, à faire l'union du Créateur et de la créature. Voyez comme vous serez bien payés et quel bon maître vous avez. 32.11, page 751. Ça va? Donc, ce don de notre volonté attire le don de Dieu. Et elle dit, c'est cela la contemplation parfaite dont vous m'avez demandé de vous parler. Bien. Nous pouvons boire à la source d'eau vive dont nous parlions au début du chemin. Alors, ce qu'elle va signifier, vous rappelez le mot attirer, c'est l'humilité qui attire dans le sein de la Vierge, le Verbe de Dieu. Donc là, c'est le don de notre volonté qui attire. Le Seigneur, c'est cela la contemplation parfaite dont vous m'avez demandé de vous parler. C'est assez curieux, la définition de la contemplation qu'elle donne. On en avait déjà parlé. Nous donnons notre volonté pour qu'il agisse conformément à la sienne, sinon jamais il ne nous permettra de boire à la source. C'est cela la contemplation parfaite dont vous m'avez demandé de vous parler. Quoi? C'est cela. Quoi? Esto es. Boire à la source, donner notre volonté pour qu'il agisse en nous conformément à la sienne. C'est tout ça. Et ouais, c'est tout ça la contemplation. Ça va? C'est boire à la source d'eau vive, mais à condition qu'on ait donné sa volonté et que le Seigneur agisse dans la nôtre conformément à la sienne. C'est ça avec Thérèse. Donc c'est quand même assez exigeant. Bien, ça va? Alors, ce qu'elle fait comprendre ensuite, dans les paragraphes qui suivent, c'est que cette union contemplative avec Dieu, c'est vraiment la descente de Dieu, sa venue, sa présence dans le cœur humain, la communion spirituelle de l'homme avec Dieu, mais que ce n'est pas quelque chose de statique. C'est un dynamisme. et que ça s'approfondit à mesure que notre volonté est plus donnée et plus ajustée à celle de Dieu, et que le don de notre volonté est plus effectif. Alors c'est le texte 32:12. Page 752. Alors, quand je fais des coupures, je vais le lire. Non content de s'être uni l'âme qui ne fait qu'un avec lui, union, Dieu trouve en elle sa joie, lui découvre ses secrets. Du coup, il lui fait perdre peu à peu l'usage de ses sens extérieurs afin que rien ne puisse la distraire. Cet état s'appelle le ravissement. Ouïaïaï. Il la traite enfin avec tant d'amitié que non seulement il lui rend l'usage de sa volonté, mais lui remet la sienne avec « Dieu donne sa volonté à l'âme ». En effet, dans cette si grande amitié, le Seigneur se plaît parfois à laisser l'âme commander à son tour, je coupe, à faire ce qu'elle lui demande, de même qu'elle accomplit ce qu'il lui commande. Il fait cela bien mieux qu'elle, car il est tout puissant et peut ce qu'il veut, et jamais il ne cesse de vouloir. 32:12. Alors, qu'est-ce que c'est que cette contemplation, cette union contemplative? C'est l'amitié, une amitié. C'est un échange, une réciprocité de volonté, de vouloir. L'âme fait ce que Dieu commande, il fait ce que l'âme lui demande. La réciprocité, le propre de l'amitié, relisez Aristote et saint Thomas. Les biens sont communs, il y a une réciprocité, il y a une égalité. L'égalité, elle n'est que proportionnelle ici, parce que c'est Dieu qui ravit l'âme, qui la saisit. Donc il affirme sa seigneurie, elle lui appartient. Donc on n'est pas d'égal à égal, c'est vrai. Mais il y a cependant une réciprocité, une amitié. Vous comprenez que là, avec cette réciprocité, cette oraison contemplative, et si Dieu fait ce que l'âme lui demande, alors l'intercession pour l'Église, qui était le projet de départ, trouve son efficacité. Ça marche. Ça marche. Ça marche parce que Dieu nous écoute. Nous intercédons, Dieu nous écoute. Il fait notre volonté, qui est sa gloire et le bien de son Église. Vous vous rappelez, c'est là que tendent tous mes désirs. Le salut d'une seule âme, tout ça. D'accord ? Les prédicateurs de la vérité, ainsi de suite. La sainteté des membres de l'Église. Dieu accomplit ce que l'âme lui demande, tout comme elle fait ce qu'il lui ordonne. Et vous voyez, le grand projet thérésien de la prière efficace pour l'Église, souffrante, trouve son accomplissement. Donc ce chapitre 32, c'est, on va dire, un sommet du chemin de la perfection. Mais, c'est intéressant, paragraphe 13, page 753, elle nous fait comprendre qu'une telle fécondité de la prière, de l'union contemplative, alors c'est pur don. Et c'est compris comme pur don. Et même l'âme voudrait rendre, mais ce n'est pas la peine qu'elle s'en préoccupe, elle ne pourra jamais. Elle sera toujours en dette. Je vous lis ce texte, parce que je fais une ou deux coupures aussi. Paragraphe 13, chapitre 32, page 753. La pauvre âme a beau vouloir, elle ne peut pas faire ce qu'elle voudrait et elle ne peut rien que ce qu'on lui donne. Donc il fait comprendre que si elle commande à Dieu, c'est Dieu qui lui donne d'eux. Bon, d'accord ? C'est sa plus grande richesse que de se voir plus endettée à mesure qu'elle sert plus. Elle voudrait payer quelque chose de ce qu'elle doit, mais elle est bien bête de se faire du souci. Là, c'est ma traduction, ça. Ferait-elle tout son possible ? Que pouvons-nous payer, nous qui, je le dis, n'avons rien à donner que nous n'ayons reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Je pense. Voilà. Qu'est-ce que nous avons à faire ? À part nous connaître nous-mêmes, connaissance de soi, donner notre volonté, c'est dans notre pouvoir, et le faire parfaitement. Tout le reste est sans profit, ne fait que gêner et porter préjudice à l'âme que le Seigneur a conduite jusqu'à ce point. Car seule l'humilité est capable de quelque chose, non pas celle qui s'acquiert à l'aide de l'entendement, faisant son examen de conscience et tout ça, son analyse de soi, mais dans une lumière de vérité, alors oui, elle ne perd pas la dimension de la vérité, qui comprend en un instant ce qu'avec le travail de l'imagination elle n'aurait pu atteindre en de longues années, sur le très peu de choses que nous sommes et le très beaucoup qu'est Dieu. C'est ma traduction. Comment c'est dans vos traductions ?
La comparable des majestés de Dieu.
Dieu est immense.
La profondeur de son union.
Blablabla, blablabla. En espagnol, lo muy no nada que somos, le très rien, le très néant que nous sommes, y lo muy mucho que Dios. Le très beaucoup que Dieu. C'est assez amusant. Le très beaucoup que Dieu. Lo muy mucho que es Dios. Elle écrit comme ça, Thérèse. Hein? C'est assez rigolo. Hein? Donc, c'est une lumière de vérité qui tombe sur nous, hein, et qui nous fait comprendre le très rien que nous sommes et le très beaucoup qu'est Dieu. Voilà la contemplation. Hein? Ça donne un sens de Dieu, n'est-ce pas, hein? Et aussi un sens de l'homme, de la vérité de l'homme et de la vérité de Dieu. Voilà ce premier point. Ça va, hein? Nous voyons donc la fécondité de l'union des volontés, de l'union contemplative. Et en même temps, nous voyons ce contrefort de l'humilité avec. Hein? Ça va? Bien. Oh, ben ça passe bien. Nous allons aborder le deuxième volet du diptyque, qui est le sacrement de l'Eucharistie. Mais d'abord, la parole du pater, Panem nostrum quotidianum da nobis odi. Alors, nous allons trouver le centre eucharistique du chemin de la perfection. Nous avions tout à l'heure le sommet du chemin de la perfection avec l'union contemplative, et maintenant nous allons trouver le centre, c'est possible qu'il y ait les deux avec Thérèse, eucharistique du chemin de la perfection. Commence. La demande du pain quotidien aujourd'hui est commune aux deux versions du Notre Père, hein, que ce soit en Matthieu 6 ou Luc 11. Tout n'est pas commun, hein, vous savez. Bon. Matthieu 6 et Luc 11. Bien. Alors, c'est très clair pour Thérèse, cette demande est assimilée et priée par elle dans le sens du pain donné par le Père, descendu du ciel, pain de l'Eucharistie, sacrement significatif du corps livré du Seigneur, tel qu'il est révélé au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, l'Évangile du pain de vie. Elle ne le cite pas, mais c'est derrière. Donc voilà, donc elle lit la demande du Notre Père à l'Évangile du pain de vie. Ça va ? Cela est tout à fait de manière exclusive dans la première rédaction de l'autographe de... Voilà. Dans l'autographe de l'Escoria, je vais vous donner la référence, c'est le chapitre 60, le paragraphe 2. Donc l'Escoria, je note, CP, chemin de perfection escoriale, 62. Alors, dedans, elle dit la chose suivante, vous allez retrouver ça, certainement. Hein. Notre pain quotidien, c'est pain eucharistique, il n'y a pas de problème pour elle. Hein. Quant à cet autre pain, celui qui soutient et nourrit notre corps, je me refuse à penser que le Seigneur s'en soit souvenu. Et je voudrais que vous ne vous en souveniez pas non plus, mes sœurs. Nous sommes ici à un très haut degré de contemplation, et celui qui l'a atteint n'a pas souvenir d'être dans le monde, pas plus souvenir d'être dans le monde que s'il n'y était pas. À plus forte raison, ne pense-t-il pas à manger ? Comment penser que le Seigneur aurait tant pu insister pour demander pour lui et pour nous le manger. Cela ne va pas avec ma manière de voir. Il nous apprend à mettre nos désirs dans les choses du ciel et à prier pour que nous commencions à en jouir ici et à prier. Il nous apprend à mettre nos désirs dans les choses du ciel et à prier pour que nous commencions à en jouir ici-bas, c'est bien ça. Comment aurait-il pu nous amener à demander une chose aussi basse que le manger, comme s'il ne nous connaissait pas et ne savait pas qu'une fois que nous aurions commencé à nous soucier des besoins de notre corps, nous oublierions ceux de notre âme. Plus on nous donnera, plus nous aurons l'impression que l'eau va nous manquer. 63, j'ai un peu coupé, que ceux qui veulent plus que le nécessaire en cette vie demandent cela, mes filles, quant à vous, demandez au Père éternel de vous laisser votre époux aujourd'hui et de n'en être pas privé aussi longtemps que vous vivrez. C'est déjà assez qu'il reste caché sous les apparences du pain, et c'est un grand tourment pour qui n'a pas d'autre tourment ni d'autre consolation que lui. Suppliez-le qu'il ne vous manque pas et qu'il vous donne les dispositions voulues pour le recevoir dignement. Quant à l'autre pain, je passe au paragraphe 4, ne vous en préoccupez pas, puisque vous êtes abandonné complètement à la volonté de Dieu. Je veux dire, quand vous êtes en oraison et vous occupez alors de choses plus importantes. Bon, ça c'est dans Valladolid. Alors, vous voyez un texte qui va poser problème aux censeurs, parce que Sainte Thérèse interprète le pain quotidien dans le sens exclusif du pain eucharistique. Et elle dit que le pain de chaque jour, nous n'en avons pas à nous en soucier. Et qu'il ne faut pas que ses sœurs s'en préoccupent. Alors, je dis tout de suite, vous l'avez saisi, Sainte Thérèse le précise, mais le censeur n'était pas content avec ça quand même, il trouvait que ce n'était pas suffisant. Elle s'adresse à ses sœurs qui, dit-elle, sont arrivées à ce haut degré de contemplation. Vous voyez, on est au sommet de la contemplation qu'elle a décrit auparavant. Ce sont des sœurs qui prient, à qui le Seigneur fait le don de la contemplation, et qui de plus, par leur consécration, sont les épouses du Christ. Vous rappelez ce qu'on a dit au sujet de la pauvreté. Regardez votre époux, les yeux fixés sur votre époux. Et même si vous deviez mourir de faim, heureuses les sœurs de Saint-Joseph. Ils s'occupent de vous. Vous rappelez de ça? Rappelez cela. Donc, elle est toujours dans cette même logique. Par votre consécration, vous êtes les épouses du Christ. Il s'occupe de vous. Et il arrivera à mouvoir les cœurs pour qu'on vous donne à manger, même de ceux qui vous sont les plus opposés. D'accord? Donc elle a ça dans sa tête. Et là, elle revient là-dessus. Hein. Vous êtes les épouses du Seigneur. Hein. Vous êtes à un haut degré de contemplation. Donc, qu'il ne vous vienne pas à l'esprit de demander de quoi manger. Hein. Alors elle le relie au pain quotidien. Elle interprète le pain quotidien dans ce sens-là. Mais le censeur n'a pas du tout été content de ça. Il dit que le Seigneur, même s'il inclut dans la demande du pater le pain eucharistique, le pain par excellence, hein, même s'il inclut, nous fait demander le pain de chaque jour pour nos besoins humains, terrestres. Il n'est pas du tout content de cela. Hein. Alors, la sainte, elle n'est pas très contente de la censure non plus. Elle a ça dans la tête. Et vous voyez que dans le chemin de l'Escorial, c'était quand même un tout petit peu carré, un peu fort quand même. Hein. Moi, je ne peux pas penser que le Seigneur ait eu en tête le pain de chaque jour, le pain matériel. Alors le censeur, là, il n'était pas content du tout. Hein. Donc, voilà, hein. Donc elle a interprété le texte dans le sens exclusif de l'Eucharistie pour des personnes qui sont consacrées au Seigneur. D'accord hein. Alors, est-ce qu'elle va tenir compte de la censure? Ben, en effet, vous verrez dans le chemin de perfection de l'Escorial, 34.4, CPV 34.4, page 460, Valladolid, oui. Oui, il y a une différence de chapitre dans l'Escorial, il y a beaucoup plus de chapitres, donc on est beaucoup plus loin, 60. Et ici, les chapitres sont beaucoup plus ramassés dans Valladolid, on est seulement à 34. Il y a 72 chapitres dans l'Escorial, 42 dans Valladolid. Ça veut dire qu'elle a ramassé les choses. Elle a restructuré. Ça va? Hein? Bien. Alors elle dira, est-ce que vous trouvez cette phrase, quant à l'autre pain, ne vous en préoccupez pas, puisque vous vous êtes abandonné complètement à la volonté de Dieu. Je veux dire quand vous êtes en oraison. Ça va? Donc elle précise. Et vous occupez alors de choses plus importantes. Il y a d'autres moments où la personne chargée de cette tâche veillera à ce que vous ayez de quoi manger. Je veux dire qu'elle vous donnera ce qu'il y aura. C'est pas grand chose, il n'y aura qu'un œuf. Bon. Ne craignez pas d'être dans le besoin si vous ne manquiez pas à votre engagement de vous remettre à la volonté de Dieu. Hein? Donc vous voyez qu'elle a, elle a ajouté ça. Hein? Elle a corrigé son texte dans l'autographe de Valladolid. Elle l'a coupé aussi abondamment. Hein? Il y a d'autres moments où vous travaillerez et gagnerez de quoi manger, elle dit encore, hein, 34.4. Ça veut dire que quand même, elle a tenu compte de ce que disait le censeur. Hein? Le père Garcia de Toledo avait mis en marge, avait mis une croix hein, sur le passage, et il avait mis en marge. Hein, le Christ notre Seigneur a demandé tout ce qui concernait la subsistance du corps et de l'âme, aussi bien le pain matériel que l'Eucharistie, et c'est ce que demande l'Église. Donc, salut Kay. Hein, d'accord hein, en voyant cette petite phrase. Voilà, donc elle a obtempéré. Hein. Et d'ailleurs, au chapitre 37, paragraphe 2 du chemin de Valladolid, elle ajoutera un petit mot, page 779. Elle va considérer avec réalisme que ceux qui vivent sur la terre, il est normal qu'ils demandent, en conformité avec leur état, un père de famille, hein, c'est clair, une mère de famille, demandent aussi, elle ajoute, también, leur pain avec lequel ils subsistent et font vivre leur famille, ce qui est juste et sain, hein, ainsi que tout ce dont ils ont besoin. Donc elle a corrigé ça, elle était partie dans son élan, mais c'est vrai, le livre a été écrit pour ses sœurs. Elle avait pas pensé à la diffusion, c'est clair, à tout le peuple chrétien. Hein, donc le censeur le corrige dans un sens d'une plus grande ampleur. Hein. Mais elle s'adressait à ses sœurs. Donc le pain quotidien, c'est le pain eucharistique. Mais c'est intéressant de voir d'une part comment elle a obéi, elle a été docile hein, à ces arguments que c'est le Seigneur qui demande pour nous aussi d'abord le pain quotidien, le pain matériel et le pain eucharistique. Hein. Et c'est ce que continue de demander l'Église. Hein, donc pour le censeur, c'est très clair. Ça. Donc elle entre là-dedans. Hein. Bon, mais il est vrai, il n'empêche que c'est le pain eucharistique qui est au centre de la demande intériorisée par Thérèse et ses sœurs, contemplatives, donc tout abandonné à la providence de l'époux. Hein. Et d'ailleurs, si vous lisez dans la suite des demandes du Notre Père, en Matthieu 6, viennent les textes de « Ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez. » Il y a l'Église des champs, il y a tout ça. Et donc en fait, elle est dans ce contexte-là. C'est pas idiot, en fait, quand même, complètement, son affaire. Elle a étalé de manière un peu trop carrée et trop exclusive. Mais quand vous lisez le contexte de Matthieu 6 et de la demande des demandes du Notre Père, vous avez tout à fait ça à la suite. Hein? Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour le vêtement, etc. Salomon lui-même, et ainsi de suite. Hein. Donc, elle va dans ce contexte. Hein. C'est pas du tout... c'est pas aberrant, en fait, hein, quand on regarde un peu le contexte et de la lettre du texte. Hein. Toute tendue vers... Et aussi, elle fait comprendre quelque chose qui est très important. Une dimension de l'Eucharistie qui est très importante aussi. C'est cette dimension eucharistique. L'Eucharistie... C'est une attente de l'époux. Et alors là, je rejoins ce qu'on évoquait avec l'adoration. L'adoration, c'est pour l'Eucharistique, c'est pour le temps de l'attente. C'est en vue de la célébration eucharistique. C'est en vue de la venue du Seigneur dans l'Eucharistie, car il vient dans l'Eucharistie. La venue eucharistique du Seigneur précède sa venue dans la gloire. Il vient dans l'Eucharistie. C'est une dimension importante du sacrifice eucharistique. Hein. Viens, Seigneur Jésus. D'accord. Bon. Donc, comme épouse, comme vierge, elles sont toutes tendues vers la venue de l'époux. Hein, qui vient dans l'Eucharistie, qui est le gage de la gloire future, l'anticipation du banquet messianique. C'est cette dimension eschatologique de la vie consacrée dans le monde qu'elle exprime là. Cette tension vers la venue de l'époux. Donc vous voyez, elle a été très bien corrigée, c'était très juste, très sensé, elle a obtempéré, elle a inscrit, mais elle, elle se concentre sur le pain quotidien de l'Eucharistie. D'accord ? Vous voyez ça ? Et ça se comprend. Vu son auditoire et vu la dimension de leur vie, la dimension contemplative et consacrée de leur vie. Mais on accepte tout à fait ce que dit le censeur. Ça va ? Voilà un premier point qu'il faut retenir donc, sur cette concentration sur le pain quotidien de l'Eucharistie, avec les objections du censeur et l'assimilation de ces objections par Thérèse. Et en même temps, elle suit son idée. Ce que femme veut. Voilà. Bon. Deuxième point qu'il nous faut voir, le réalisme de l'Eucharistie. Alors, le point que je vous ai donné sur le plan entre deux demandes difficiles, que ta volonté soit faite en nous. Donc ça, c'est très difficile. Alors, c'est la première chose. Je vais faire comme ça, peut-être j'ai intérêt à le mettre maintenant. Oui, parce que je vois qu'il me reste plus de temps. Oui, je le fasse maintenant. Donc ces deux demandes qui précèdent la demande du pain quotidien, ce sont des demandes difficiles, dit Thérèse. C'est au tout début du chapitre 33. Alors, c'est assez, une des choses assez amusantes. Elle dit bien que... donner sa volonté au Seigneur, c'est quelque chose de vraiment qui est presque contre nature pour nous. Enfin, ça, vraiment, ça nous coûte, c'est très difficile. Elle dit, si vous dites à un religieux que c'est la volonté du Seigneur qui cherche une vie plus parfaite et qu'il est dans ses aises et dans son confort, il va trouver 1000 excuses et prétextes pour dire que c'est pas ça, la volonté de Dieu. Si vous dites à un riche que c'est la volonté de Dieu qu'il partage ses richesses avec les plus pauvres, il va trouver 1000 excuses pour ne pas le faire, etc., etc. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est chose très difficile. Et ce serait impossible si le Seigneur n'avait inventé, c'est son expression, un moyen admirable pour remédier à notre faiblesse, pour montrer l'extrême de son amour et réveiller, ressusciter le nôtre. Pour nous inciter à nous donner à sa volonté. C'est 33, paragraphes 1 et 2, page 754-755. S'il n'avait inventé ce moyen admirable de l'Eucharistie pour susciter, ressusciter notre amour et nous donner la force d'accomplir la volonté du Seigneur, de la faire, de nous remettre à sa volonté et donc de la faire. Vous voyez, c'est tout ça. Nous remettre, ce n'est pas seulement un acte pieux, un acte d'offrande pieux, donc c'est la faire. Ouais. Alors voilà. Donc s'il n'avait pas inventé ce moyen admirable pour ressusciter notre amour, ce serait impossible pour nous. Et puis je vous ai dit l'autre chose qui vient au début du commentaire du pardon des offenses. Avec cette nourriture, tout nous est rendu facile, et donc jusqu'à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Voilà. L'Eucharistie est la facilité pour accomplir la volonté de Dieu et pardonner les offenses. Choses qui, à notre nature humaine, sont excessivement difficiles. On verra. Alors, on s'arrête là.
Juste un point de... Quand il y a des... Par exemple, la fiat voluntas tua, c'est en capital dans notre texte, peut-être Thérèse le souligne dans son manuscrit ou...
Non, je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas beaucoup mis en capital. Je regarde sur le manuscrit, mais habituellement... Ah, les titres sont soulignés.
Mais là, c'est la fin de paragraphe.
La fin d'un paragraphe.
Par exemple, la fin du chapitre 32.
C'est souligné.
Où là, au cœur du chapitre 1, 33, quelque chose comme ça.
Alors, ça, de fait, il y a des soulignements dans le texte, mais on ne sait pas si c'est de Thérèse ou si c'est des censeurs. Est-ce que ça correspond au soulignement dans le manuscrit de Valladolid? Ce sera vérifié. Si tu as envie de le faire, si tu veux te livrer à cet exercice de chercher les folios dans le manuscrit de Valladolid, l'autographe de Valladolid, ça peut te donner la transcription de Gatum Alvarez en espagnol, moderne. Et après, tu peux chercher tout cela et voir si ça correspond au soulignement. On ne sait pas si c'est de Thérèse ou du descenseur. On ne sait pas.